Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ReLife, nous sommes le dimanche 19 mars 2023 et c'est l'épisode 131, on va vous parler de plein de sujets, notamment la gestion budgétaire, on va donc vous parler argent, vous allez vous faire plein de sous, vous allez voir. On va vous parler aussi de la méthode dite rouge, jaune, vert, donc non, c'est pas une méthode pour apprendre le code de la route, mais c'est une méthode pour vous organiser. On va vous parler un petit peu des NAS et puis j'aurai une petite mention moi aussi, bon, sur des sujets un petit peu annexes. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous retrouver, je suis évidemment ravi aussi de retrouver mes deux compères de ReLife, à commencer par toi Julien. Salut Julien Deray, comment vas-tu ?
Salut Guillaume, ça va fort bien, merci.
Merci beaucoup de te dimensionner un petit peu ton temps, comme merci beaucoup à toi, Matt, de te dimensionner un petit peu de temps pour passer un bon moment tous les trois, mais aussi auprès de nos auditeurs. Matt, alias prof du web, est-ce que tu as passé un bon week-end?
J'ai passé un bon week-end parce que mon équipe de hockey vendredi a gagné. C'était de justesse, alors j'ai passé un super bon week-end parce que c'était un super match.
Bon, bah, tu vas peut-être nous reparler de tout ça. On va donc avoir plein de sujets qu'on va donc vous partager, comme je vous l'ai dit en intro. Juste avant qu'on échange, peut-être pour une fois, avant de faire un petit peu le tour de nos actualités personnelles, j'avais envie de bousculer un peu nos habitudes et qu'on commence un petit peu avec les interactions, parce qu'on a déjà eu quelques petits retours. On a un commentaire sur Apple Podcast. Matt, je te laisse l'honneur de le retransmettre.
Oui, alors ça nous vient de... et j'ai pas noté son nom. Oui,
Jacques Béranger.
Alors Jacques Béranger, bienveillance, bonne idée et un peu de tech. Bravo la nouvelle équipe pour ce contenu très chouette. Je suis abonné et écoute dans les transports. Parfois, un peu de mal à bien entendre Julien, mais avec son timbre grave, bon, on le sait, mais c'est corrigé maintenant. Alors j'imagine que c'est un vieux commentaire. Les sujets abordés et développés sont toujours de qualité.
Merci beaucoup Jacques, ça fait plaisir. Continuer à nous déposer vos avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, les petites étoiles sur Spotify, ça c'est les prérequis indispensables. Et puis on a également un message de Carole, peut-être pour faire tourner. Est-ce que tu veux nous retransmettre un petit peu Julien le message, ou est-ce que tu veux que, je sais pas, que tu préfères qu'on fasse un résumé, je sais pas, je te laisse la main Julien.
Je peux essayer de faire un résumé en direct.
Demande à ChatGPT sinon au pire.
tu me prends au dépourvu.
On aurait dû le lancer. On devrait le lancer, ça devrait être des outils qu'on lance en parallèle des épisodes de podcast. Mais bon, pardon.
Donc, un message de Carole un peu long, mais c'est pour le meilleur, qui nous dit que ça fait deux épisodes qu'elle écoute et qu'elle voulait nous mettre un petit message pour nous dire que... Elle a l'air d'apprécier, en tout cas, so far so good, qu'elle se retrouve dans le côté très organisé et rigoureux de ma personne, et qu'elle voudrait qu'on aille plus loin, peut-être sur certains sujets concernant les outils numériques, et aussi parler de, pas seulement quand on est manager, mais quand on est collaborateur. On pourra parler de followership, leadership dans un prochain épisode, avec plaisir. Un petit mot pour Matt, qui recommande, ou elle recommande, les stylos et façades pilotes qu'elle utilise pour un agenda papier. Et un mot pour Guillaume, où elle se dit une pipelette capable de parler à un mur. Et ça fait référence évidemment à un épisode précédent, le dernier, il me semble.
Ouais.
Disons que voilà, elle a beaucoup de mal à s'empêcher de parler avec les gens dans le vrai monde, mais en même temps beaucoup de gens a beaucoup de mal à essayer à interagir avec les gens sur les réseaux sociaux, ce qui est assez intéressant. Donc d'où la question: dois-je me considérer introverti ou extraverti? Eh bien, peut-être lis le livre dont on a parlé il y a quelques épisodes qui s'appelle Quiet. Et voilà, merci beaucoup pour les apps, l'apprentissage des langues, et justement elle recherchait une application pour apprendre.
Et c'est trop agréable d'avoir vos retours. Sincèrement, on vous le dira jamais assez, mais quel plaisir pour nous quand on a des petits retours, des petits commentaires, des petits messages. Donc voilà, usez de tous les canaux à votre disposition. De toute façon, le plus simple, c'est d'aller sur relifepodcast.com et puis vous aurez des pistes. À vous aussi, peut-être, d'être créatif sur les méthodes pour nous joindre. On compte sur vous. On va faire donc du coup un petit tour de piste. Matt, rapidement, tu nous disais que le hockey était source de bonheur pour toi en ce moment.
Mais écoute, pour faire une petite histoire, à Québec, on avait une équipe de la Ligue nationale de hockey à l'époque. C'est la plus grosse ligue de hockey au monde. Et l'équipe a déménagé fin 90 au Colorado. Et ben, depuis, je m'étais dit, non, je ne veux plus réécouter du hockey. Ils m'ont fait trop de peine, le cœur brisé. Mes enfants me parlent de hockey. Et je dis, c'est bien d'aller voir le hockey. Quand j'étais petit, j'allais voir les Nordiques. Et puis, c'était les Nordiques de Québec. Et puis, comme on dit ici, parle, jazz, on finit par aller voir un match des Remparts, parce que mon cousin de France était là, alors je voulais faire vivre un petit peu l'ambiance d'un match de hockey en Amérique du Nord, et puis patatras, je suis tombé en amour, et ça recommence. Alors j'espère qu'ils ne déménageront pas, parce que cette fois-ci, mon cœur ne résistera pas. Il s'agit des Remparts de Québec, qui est une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, qui est une des la plus grosse ligue, et puis par la suite, les joueurs, quand ils vieillissent un petit peu plus, se retrouvent généralement dans la Ligue nationale, ce qui fait que c'est la pépinière, on va dire, de la Ligue nationale. Et puis, les matchs sont super, l'ambiance est juste incroyable. Et puis, je me suis pris au jeu, acheter un chandail à mon fils, à ma copine, puis 2, 3, 4 matchs, puis on est abonné à la télé, alors vous voyez un petit peu la folie.
Ouais, vous le savez, j'habite Amiens en Picardie, et on a une équipe de hockey ici à Amiens qui a l'air d'être très connue, mais malheureusement je ne connais rien du tout au hockey, ne m'en veux pas Matt, il s'appelle donc les Gothiques, c'est tout ce que je sais. On m'a souvent dit va voir un match de hockey, c'est génial. J'ai très peur de ne rien comprendre, parce que j'ai très peur de ne pas voir le palais qui s'appelle d'ailleurs peut-être pas un palais, pardon hein, si c'est pas le bon terme, mais qui va pour moi beaucoup trop vite probablement. Je vais essayer de me faire violence. Tu sais quoi Matt, ton retour me fait me dire que ça y est, je prends l'engagement en 2023, j'irai voir un match de hockey avec les Gothiques et je te dirai si jamais j'ai été sensible à cet événement. Il paraît que c'est trop bien en vrai. Donc on verra ça ensemble. Julien, de ton côté, retour de vacances, tout va bien ?
Oui, j'ai eu la chance de passer 4 jours à Rome la semaine dernière, et quand tu passes 4 jours, juste 4 jours en vacances, j'avais posé que 2 jours, donc c'est juste un espèce de week-end allongé. Et quand je suis rentré, je me suis posé la question, tu vois, il faut quand même rattraper un peu le travail, t'as plein de messages en retard, et tu vois, normalement, si tu pars en vacances 2 semaines, tu rattrapes pas les 2 semaines, et tu regardes un peu les dernières updates sur les différents sujets. Quand tu pars 2 jours, tu dois tout te retaper, donc je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Et en fait, au bout de quelques jours, vous connaissez l'actualité, c'est un peu électrique en ce moment, un peu partout, en particulier dans le domaine dans lequel je travaille. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques jours que j'étais super relax. Je me suis pas énervé, tout s'est bien passé. Wow. Tu prends du recul. Vraiment, même juste 4 petits jours comme ça à l'étranger, ça m'a fait un bien fou. Donc, même si je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je m'en suis rendu compte après. Et voilà, je suis reparti jusqu'aux prochaines vacances qui, j'espère, seront un peu plus longues.
Très bien, très bien. Un bel exemple et une belle illustration de l'énergie qu'on a à titre perso, qui sert concrètement dans l'environnement pro. C'est parfait, excellent. Écoutez, de mon côté, juste un petit mot pour vous inviter, si vous n'avez pas déjà écouté Contrôle Parental, le podcast que j'ai lancé là en début d'année, avec un rythme très, très cool. Hein. Je ne m'inflige pas la violence d'un rythme de diffusion trop difficile à tenir, mais quand même, j'en suis à mon 3e épisode. Et alors, je dois vous confier, Matt et Julien, que c'est mon premier épisode de podcast enregistré en 10 ans de podcast, pour de vrai, en présentiel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce petit exercice de votre côté. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais fait venir, c'était une collègue de travail qui a témoigné de son diabète et du diabète de sa fille, une petite fille de 3 ans et demi. Comment elle a appris ça, qu'est-ce que ça représente au quotidien. Moi, j'ai passé évidemment un super moment sur le fond parce que le sujet m'intéressait, je connais la personne forcément, mais vraiment, j'ai eu un sentiment assez dingue de me dire, ah ouais, mais en fait, enregistrer en vrai avec les gens, c'est trop bien aussi. Alors, c'est une logistique en plus, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire quand est-ce que tu as une heure à passer avec moi sur Skype. C'est par contre bien différent, c'est des enjeux même en tant que présence et en tant que posture dans la gestuelle, dans les regards et tout. J'ai pris un pied hallucinant. Julien, Matt, est-ce que vous avez déjà enregistré des émissions comme ça en vrai? Julien, je te vois hocher la tête.
Je l'ai fait une fois, c'était sur un de nos premiers épisodes d'Agiliste avec Pierre. Quand on s'est mis au podcast, il a acheté une Scarlett pour son interface audio et il m'a dit « Je vais en prendre une avec deux entrées XLR quand même, on sait jamais. » Et un jour, on s'est retrouvé chez lui, on a fait un épisode ensemble. Et effectivement, c'est un peu logistique, il y a des câbles partout, ça fait un peu d'écho si on s'ébrouille pas très bien. Mais c'était très bien, j'en garde un bon souvenir et je suis pressé de repasser à Londres pour qu'on se fasse un petit épisode en présentiel tous les deux.
Trop bien. Moi, ça m'inspire même à regarder quels équipements en mobilité existeraient qui ne coûtent pas une blinde pour carrément aller enregistrer ailleurs, notamment à Paris. Je ne suis pas très très loin de Paris, j'y passe assez régulièrement. Il y a plein de gens assez géniaux avec qui j'aimerais discuter et enregistrer des conversations. Donc voilà, ça me donne des idées. Matt, est-ce que tu as un rapport comme ça à l'enregistrement présentiel, une expérience dans ton passé ou pas?
Oui, j'ai je sais plus, pas beaucoup d'expérience en une dizaine d'années. Moi aussi. Comment t'as géré le fait que ben, t'es un peu un personnage? En tous les cas, t'as une façon de parler, d'animer un podcast. Est-ce que dans la vie, c'était pareil? Et puis, est-ce que cette personne t'avait déjà écouté? Est-ce que la gêne, la petite timidité était là, palpable pendant l'enregistrement?
Oui, alors je parle pour moi, hein, ouais. Mais clairement une timidité, ça que je n'ai pas du tout si je suis amené à enregistrer avec des personnes qui ont autrement plus de notoriété que Sophie, qui reste une personne qui n'est pas aujourd'hui créatrice de contenu. Peut-être qu'elle changera d'avis à l'avenir ou d'orientation, mais en tout cas pour l'instant elle n'est pas plus connue que ça sur internet, dans les médias ou sur des podcasts, etc. Mais du coup j'ai eu une vraie timidité et il y a des jeux de regard qui sont très difficiles pour moi à tenir et des relances de l'échange qui n'étaient, je pense, pas là comme quand j'enregistre en distanciel. Donc, c'était vraiment nouveau. Ça m'a un petit peu bousculé, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Et en même temps, c'était beaucoup plus enrichissant. Quelque chose de très nouveau pour moi, mais j'ai très, très envie de recommencer, en fait. Bon, on verra. On enchaîne avec le cœur de cet épisode, ce que vous attendiez le plus, probablement le fruit de nos veilles, de nos réflexions du moment et de nos différentes consultations. On va commencer avec toi, Matt, avec la méthode rouge-jaune-vert qui, si j'ai bien compris, explique quand on peut passer en voiture et quand on doit laisser passer les autres, c'est ça? J'ai tout compris.
C'est
hein.
Exactement ça. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'application Artifact. Qui a été créé par les premiers fondateurs d'Instagram. C'est une application qui te suggère des actualités en fonction de l'intelligence artificielle. Alors, au début, tu l'installes, l'application, puis après ça, en fonction de ce que tu vas cliquer, tes intérêts, tout ça, elle va te redonner des articles à peu près dans la même thématique. Voilà, vous connaissez tout de suite le problème, c'est qu'on risque d'être enfermé d'à peu près les mêmes sujets tout le temps. Fait que ça, c'est, outre ce problème-là, je découvre toutes sortes d'articles, et puis évidemment, elle a détecté que j'aimais ça, des méthodologies de travail, comment optimiser mes réunions. Elle a détecté ça, cette application-là, puis elle m'a proposé deux, trois articles en lien avec une méthode qui s'appelle rouge-jaune-vert. En fait, c'est un principe qui est utilisé par certaines personnes assez connues dans la, je pense, la Silicon Valley. Oui, je me rappelle plus les noms des entreprises qui l'utilisaient. Mais en fait, c'est assez simple. C'est de justement simplifier au maximum la communication. Et puis, dans les articles que je lisais, un des premiers, c'était quand tu organises une rencontre qui est compliquée, et j'en ai plein de compliqués en ce moment. Alors, je vais prendre du coaching de Julien, c'est sûr. Mais elle disait, cette méthodologie-là, que essayez de classer les sujets et demander aux gens de les classer en fonction des trois couleurs suivantes. C'est-à-dire qu'on met le thème de la rencontre dans l'ordre du jour, et puis les gens ou dans un tableau, un fichier Excel qu'on va partager, et puis les collaborateurs vont classer ce sujet-là en fonction des couleurs. Alors, la première, évidemment, rouge, c'est un sujet urgent, important, qui nécessite une action immédiate. Jaune, c'est un sujet qui est important, mais ne nécessite pas d'action immédiate. Et vert, sujets qui sont utiles et informatifs, mais qui ne sont pas urgents ni importants. Alors, L'idée, c'est de faire ressortir dans une rencontre qui est vraiment essentielle à la discussion. Vous vous rappelez peut-être la matrice Eisenhower, ça me fait beaucoup penser à ça. Ça simplifie la communication parce qu'on n'a pas besoin de parler de matrice d'Eisenhower. On fait juste dire est-ce que c'est rouge, c'est vert ou c'est jaune. Les participants de la réunion sont invités à utiliser ce code de couleur-là pour communiquer rapidement, efficacement. Il y a aussi un autre de la Silicon Valley dans un des articles que j'ai pu consulter qui explique qu'il utilise aussi cette méthode-là, mais au niveau des communications qu'il fait à la grandeur de son équipe. Alors, c'est pas juste en réunion, c'est vraiment, il envoie un chiffrier Excel, des états de situation, de la compagnie, des budgets, des trucs comme ça, et toujours avec les mêmes couleurs, est capable de faire focusser les gens. Alors, pas de graphique, pas de trucs avec un design qui sont vraiment super fabuleux et qui nécessitent beaucoup de temps à faire. Il résume ça tout le temps avec trois couleurs. Et deux, trois articles me sont apparus là-dessus. Alors, merci Artifact, maintenant que j'en ai parlé dans le podcast, peut-être changer de thème. Mais pour le moment, c'était ça que je voulais vous relayer. Et puis, je vois Julien hocher de la tête. Toi, est-ce que tu utilises cette méthodologie-là? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Aussi simple que ça, trois couleurs.
Pas du tout. Je connais la matrice d'Eisenhower. Évidemment, j'utilise beaucoup. Mais non, c'est très intéressant. Et je l'ai noté sur mon petit bullet journal à l'instant. Je pense que je vais le mettre en application dès demain. Je pense même la première application que je vois pour moi, c'est par exemple dans les notes de réunion. Ouais. On fait beaucoup de réunions, des stand-up ou des choses comme ça où les gens ne viennent pas forcément. Il y a toujours un qui est malade, qui n'est pas là, qui a une autre réunion, peu importe. Et les notes de réunion, elles ont tendance à être très chronologiques. Comme ça, c'est plein de listes à puces avec tous les sujets qui ont été traités. Peut-être ça peut valoir le coup de réfléchir aussi à posteriori pour traiter et prioriser cette communication. Et je pense qu'il y a ce côté un peu très visuel où même après, quand on regarde les notes des différentes réunions, de tout l'historique des réunions, on peut avoir une idée aussi du sens d'urgence qu'il y avait, d'un peu de la température de la pièce chronologiquement, en regardant un petit peu derrière. Je pense qu'on peut même extraire un certain nombre de données à se dire, voilà, cette équipe, on voit qu'à chaque fois qu'ils font un stand-up, à chaque fois il y a des sujets qui sont chauds, donc ça donne un peu des points de données, je pense, sur l'équipe. C'est assez intéressant. Je vais gratter le sujet dès demain. Merci beaucoup.
J'ai une peur de mon côté quand je vois cette méthodologie, et évidemment je ne sais pas quelles actions en découlent et quelles organisations sont déclinées de cette classification, mais je vais recouper un petit peu ce sujet avec la tendance forte qui est celle des intelligences artificielles, dont on a évidemment déjà parlé ensemble et dont on entend parler partout. Moi, j'ai une crainte en fait qui ressort de tout ça en ce moment, qui ne m'empêche pas de dormir, je ne vais pas vous mentir, mais qui est-ce qu'on ne va pas avec le temps, avec d'un côté ces méthodes d'organisation qu'on voit un petit peu effectivement fleurir, d'un autre côté avec l'intelligence artificielle qui arrive à nous recentrer sur les trucs fondamentaux et importants, passer à côté de toute cette espèce de substance un peu molle qui crée aussi le contenu du travail et le contenu des interactions. Ouais. Et est-ce que moi, c'est un petit peu ma peur, telle que je vois les choses évoluer, qui est de dire, ok, on va faire que les trucs importants, et en fait, au final, le monde va se diviser en deux, soit ce sera important et ce sera considéré, soit ce sera important et pas important et ce sera ignoré. Et j'ai peur que les choses pas importantes qui puissent être ignorées avec le temps ne deviennent finalement des choses qui soient assez fondamentales pour un équilibre de vie au travail et d'interaction avec des collègues. En gros, vous l'avez compris, est-ce que les gens vont pas, dans l'exemple que tu donnes, passer leur temps sur le rouge et éventuellement le jaune, et puis clairement écarter le vert simplement parce qu'il est vert, sans forcément en prendre connaissance, parce qu'il est vert et parce qu'il est juste informatif. Bon, je note, t'as bien noté que c'était utile ou informatif, pas nécessairement urgent et important, donc ça veut pas dire qu'il faut les ignorer. Mais voilà, j'ai un peu cette crainte, je sais pas, toi justement, Julien, qui nous a fait part de ta méthode d'organisation appliquée dans le dernier épisode et dans les derniers épisodes, et qui est là aussi très investi dans ces méthodes d'organisation, est-ce que c'est une crainte que tu partages, ou est-ce que c'est une crainte de Guillaume qu'il faut vite écarter ?
Non, je comprends ce que tu dis. Je trouve peut-être ça vient en l'occurrence du code rouge jaune vert qui, je trouve, donne une sorte de classement, tu vois, de ces trucs-là, alors que ces trois sujets, ces trois types de sujets sont tous également importants, sinon ils ne devraient pas être dans la réunion. mais du coup, ouais, peut-être il faudrait d'autres couleurs, je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça donne un petit peu, ça induit un peu l'idée que le vert, bon, ben, c'est vraiment, si on a le temps, et c'est vrai en fait, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les ignorer, effectivement. Il y a peut-être ce danger-là.
Moi, je pense que c'est un simple retour du balancier, Guillaume. Dans mes équipes de travail depuis 20 ans, on n'avait pas besoin tout le temps de se concentrer. En tout cas, regarde, je vais faire mon vieux con, hein, puis je me permets. J'avais pas nécessairement besoin toujours de me concentrer sur l'essentiel parce que de facto, il était là. Avec les mails, les chats, les multiples réunions, multiples sources d'informations, multiples dashboards qui pullulent autour de mon univers, j'ai nécessairement besoin, et je me rends compte que ça a l'air d'être symptomatique d'une certaine strate de travailleurs, d'être capable de sortir l'élément le plus important, parce que quand tout t'es à un certain niveau, ben tu peux pas adresser, puis tu vis mal en fait ton travail. Alors je pense que c'est symptomatique d'une montée en charge, d'une surinformation qu'on a pu avoir dans les entreprises avec du spam institutionnel, avec des dashboards, des intranets, les grosses entreprises, hein, vous le savez maintenant, vous avez pas un intranet, vous en avez 70, vous avez tout le monde à son intranet. Il faut tout consulter les intranets de tout le monde. Mm-hmm. Il faut tout consulter les bulletins de ci, de ça. Et ben, les communicateurs sont bons parce qu'à chaque cycle, ils nous inventent un nouvel outil qui vont nous communiquer avec, mais les anciens sont encore là. Fait, bref, je pense que c'est un simple retour du balancier. Puis j'espère qu'à un moment donné, ben, on a été dans... il n'y avait pas grand-chose. On a été à trop de choses. Là, peut-être qu'on se rapproche de l'essentiel et peut-être que ces façons de voir-là peuvent peut-être nous aider, peut-être tout simplement.
Ouais, c'est un outil en plus. Après, je pense que c'est comme dans plein de méthodes d'organisation et de productivité, c'est qu'il y a une première, un premier pré-travail à faire, ouais, qui est de définir ce qui est important, parce que ce qui est important pour vous ne sera pas forcément pour le reste de la boîte ou de vos amis ou de vos proches. Et donc, il faut tomber d'accord tous ensemble sur ce qu'on trouve important et pas important, évidemment. Bon, parfait, merci beaucoup Matt. Faites-nous vos réactions sur cette méthode assez simple finalement, un rouge, jaune, vert, mais qui peut permettre de poser plein de questions, c'est ce qui est cool aussi. Tu as un deuxième sujet que tu voulais nous partager, qui est peut-être un peu plus technophile, un peu plus orienté autour des geeks que nous sommes toutes et tous, c'est le NAS. Tu continues à réfléchir sur ta méthode de stockage de l'information.
Bon, en fait, quand j'ai parlé du NAS dans les derniers épisodes, plusieurs personnes sont venues sur Twitter pour me demander « Explique-nous un peu ce que c'est, explique-nous ta méthode, ce que tu as fait, ta conversion, ton passage de tes fichiers que tu avais dans le cloud au stockage en physique. » Bon, on parle tout le temps de NAS. Si vous ne savez pas ce que c'est un NAS, là, c'est une périphérique, un espèce de serveur de stockage qui, contrairement à un disque dur que vous pourriez acheter chez Boulanger ou n'importe quelle autre compagnie d'informatique, lui, il va se brancher à votre réseau. Alors, il va se brancher tout simplement comme un ordinateur. Alors, voyez un NAS comme un ordinateur qui automatise le stockage. Et ça vient de l'acronyme Network Attached Storage. Alors, c'est simplement un gros disque dur plus intelligent qu'un disque dur normal qui s'attache à votre réseau. Alors, on met les bases de ce que c'est un NAS. Il y en a plusieurs. Ils ont plusieurs avantages. Le premier, c'est une centralisation du stockage que vous pouvez avoir soit dans votre petite entreprise ou soit chez vous, dans votre famille. Ça permet de centraliser toutes les données. Bien souvent, ces genres de NAS-là arrivent avec des petites applications que vous pouvez télécharger sur les stores d'Android ou sur les stores d'Apple pour se connecter encore plus simplement à ces NAS-là. Ça facilite évidemment l'accès à votre disque dur, parce que le disque dur que vous auriez à la maison, si vous le trimballez pas avec vous, quand vous partez de la maison, vous n'avez pas nécessairement accès à ça, tandis qu'un NAS, vous allez avoir accès à ça. Ça va aussi automatiser les sauvegardes. Un disque dur normal, traditionnel, il faut le brancher, il faut appuyer sur Time Machine, il faut appuyer sur d'autres applications pour faire le stockage, mais pas un NAS. Un NAS, ça vient avec les automatismes qui vont bien. Il y a toujours des fonctionnalités supplémentaires qui viennent avec les NAS, comme des sites web, des outils pour surveiller des caméras à distance. Il y a toujours plein de petits outils super intéressants qui viennent avec les NAS. Ça vient quand même avec certains inconvénients, des NAS, je vais vous en parler. En fait, le coût. Le coût d'un NAS peut être assez rédhibitoire. Le mien que j'ai à la maison est aux alentours d'à peu près 1000 euros. Hein, quand on additionne les disques durs, la machine, la RAM, les logiciels, les assurances, garanties, tatati et tatata qui vont bien. Faut avoir une certaine connaissance pour configurer un NAS. Je ne donnerai pas ça à une personne qui connaît rien en informatique. Faut avoir une certaine connaissance de ça, ne serait-ce que pour les partages, ne serait-ce que pour les réseaux, des choses assez banales, mais qui peuvent être assez complexes quand on a un NAS. Et puis, un NAS, ça vient avec aussi des inconvénients. Je vous ai dit, c'est comme un ordinateur. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça vieillit un ordinateur, ce qui fait que la performance peut être atteinte, ce qui fait que vous êtes obligé peut-être de le changer. Alors, c'est un truc que vous ajoutez dans votre parc informatique de la famille, que vous configurez sur les applications téléphones de vos enfants, de vos conjoints, conjointes, de votre famille plus éloignée, vos parents, vos sœurs, frères et sœurs. Et puis, l'avantage, c'est que ça va tout centraliser chez vous. Par contre, il va falloir faire comme ce que fait le cloud et que vous ne vous rendez pas compte, ce que iCloud, Dropbox, OneDrive fait, c'est-à-dire gérer ça. Alors, il faut faire les maintenances, il faut s'occuper de l'électricité, c'est aussi stupide que ça, mais il va falloir avoir des moyens que quand l'électricité tombe, que ça se ferme automatiquement ou que ça se ferme bien de manière sécuritaire. Alors, ça, c'est des éléments davantage inconvénients. Vous ne pouvez pas dire « Ah, moi, je vois que les prix de OneDrive augmentent, iCloud augmente, je vais switcher automatiquement sur un NAS. » Non, il y a aussi des inconvénients. Et un des inconvénients majeurs, c'est que vous allez centraliser tout dans un même endroit. Alors, ça, faut le comprendre. Le NAS, si votre maison brûle, si vous le faites voler, vous perdez tout. Tandis que le cloud, si vous perdez votre mot de passe, vous pouvez faire retrouver mot de passe et vous retrouvez. Il faut payer et ainsi de suite. Fait que c'est avantage et inconvénient d'un NAS.
C'était d'ailleurs un des éléments assez intéressants d'une solution que tu as dû utiliser par le passé dans mes souvenirs, qui était MyWD ou Western Digital, qui permettait en gros de synchroniser les NAS à travers plusieurs membres d'une famille à distance, non? C'était pas ça?
Ouais, WD MyCloud, Western Digital, ça fait partie des compagnies. Quand vous entendez parler de NAS, il y a plusieurs compagnies qui reviennent. Il y a un peu de tout. Mais je vais vous simplifier la vie. Western Digital est une des quatre compagnies que je vous recommanderais de regarder si vous voulez vraiment un NAS. QNAP, Netgear et Synology. Et comme le dit Guillaume, ces quatre compagnies-là permettent, une fois que vous avez installé votre NAS, de le synchroniser avec un autre NAS. Mais là, comprenez bien, si vous avez pris 4 Tera et que votre 4 Tera de stockage est complet, si vous voulez synchroniser sur un autre NAS ailleurs, il faut qu'il y ait au minimum 4 Tera de libre pour vous. Alors, c'est des calculs qu'il faut commencer à inclure dans votre quotidien. Ce qui est important, je viens de le mentionner, c'est capacité de stockage. Vous achetez un NAS, vous achetez une boîte. Après ça, il faut acheter des disques durs spécifiques à ça. C'est des disques durs qui coûtent plus cher, c'est des disques durs qui sont plus résistants, c'est des disques durs qui ont plein d'avantages, mais c'est quand même des disques durs à acheter comme une machine indépendante. Il y a des fonctions supplémentaires telles que, dans un NAS, ce qui est bien une fois que vous l'avez, c'est de rentabiliser un peu ça et de faire votre propre Netflix. Si vous avez déjà beaucoup de films à la maison, avec un NAS, vous allez pouvoir faire votre propre Netflix à la maison et streamer votre contenu un peu partout avec des applications qui vont bien comme Plex, mais il y a aussi d'autres types de serveurs qui peuvent vous aider à faire ça. Il y a évidemment des éléments de backup, j'en ai parlé. Vous pouvez aussi, dans les NAS, faire autre chose que juste du streaming et du stockage. Vous pouvez faire de la télésurveillance. Si vous avez des caméras Wi-Fi, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez des gens, par exemple, des enfants ou même vous, qui jouez beaucoup, il y a des moyens aussi d'avoir des serveurs de jeu. Il y a des moyens d'avoir des serveurs pour faire des petits sites web. Bref, la minute que vous achetez un NAS, vous pouvez en faire beaucoup plus. Mais si, essentiellement, c'est juste pour stocker des données, je vous dirais d'y réfléchir à deux fois parce que ça peut être assez cher en termes argent monétaire et en termes de temps. Alors, vous m'avez demandé un peu mon passage par rapport de iCloud à mon NAS. Je suis encore sur iCloud et j'ai un NAS. Je suis un peu maniaque du backup, certes, mais moi, c'est pour pallier au fait que je n'ai pas un deuxième NAS ailleurs, que je garde encore le cloud. Ça fait maintenant plus de presque 30 ans maintenant que j'ai du numérique, j'ai des appareils photo numériques, alors il faut que je conserve ça. Et c'est évidemment des solutions qui coûtent de l'argent. Mais bref, le NAS, ça peut être une belle solution si vous êtes un petit peu tech, je dirais avancé, débutant avancé, là, vous pourriez peut-être regarder vers le NAS. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un outil pratique. Ça centralise vos données, mais ça nécessite du temps et de l'argent. Alors, c'est pas donné à tout le monde d'avoir un NAS, pour ceux qui m'ont posé la question.
Je suis très content que tu fasses cette restitution, Matt, parce que moi, c'est le genre de truc, ça me fait très envie, les NAS. J'en ai toujours eu une envie assez irrationnelle. Et à chaque fois, je me dis, non, mais c'est pas pour moi, en fait. Je sais très bien à quel point je n'ai pas le temps, le courage, l'énergie et l'envie de gérer ça. Et j'ai trop peur de perdre les données parce qu'elles sont centralisées. J'imagine, toi, Julien, t'es beaucoup trop nomade pour reposer tes usages sur un NAS, non ?
Tu serais surpris, en tant qu'ingénieur en informatique, j'ai évidemment mon petit Netflix à la maison et non, donc j'ai un Synology chez moi depuis longtemps que j'ai changé il y a okay. 2 ans d'ailleurs pour un truc un peu plus gros qui peut streamer du 4K et qui peut faire du pré-processing, etc. et qui peut faire tourner du Docker, ce qui permet de faire tourner tout un tas de petits serveurs sans trop se prendre la tête et sans installer tout un tas de trucs. J'ai un Synology qui tourne et quand je déménage, je le mets chez mes parents pendant un moment et j'y ai toujours accès, et c'est pas grave, et ça fonctionne très bien. Mais trop j'utilise bien. iCloud aussi, pour moi c'est un peu une question de temporalité des données en fait. Si c'est de la donnée donc que je vais accéder rapidement, souvent, d'un peu partout, je vais le mettre sur iCloud. Mais par contre sur mon NAS, il va y avoir des films, mais ça c'est sur un disque dur qui est pas redondé, mais sinon tout ce que je veux vraiment garder, c'est-à-dire des photos, toutes les photos que j'ai, de la musique que j'ai en MP3 ou que j'ai ripé moi-même ou qui est difficile à trouver sur des plateformes de streaming, peu importe, ou des documents, évidemment tous mes documents personnels, justement comme je suis nomade, j'ai tout qui est sur mon NAS et qui est encrypté ici, accessible depuis partout. Moi aussi, je suis un maniaque, justement. Si je mets tout sur ce NAS là, c'est justement pour pas le perdre. Donc c'est des disques durs qui sont redondés, donc il y a plusieurs disques durs dans le NAS et ils font des copies l'un de l'autre, comme ça s'il y en a un qui tombe en rade, on a quand même pas perdu de données. Mais effectivement, si mon appart brûle, je perds tout. Donc j'ai connecté ça à un service de AWS, de Amazon, qui s'appelle Glacier, qui est du cold storage. Donc en fait ça fait des sauvegardes sur AWS, mais qui vont pas tourner sur des disques durs. Ça va être tout un système de Blu-ray, il me semble, qui sont gravés à la volée, qui sont rangés automatiquement par des bras robotiques dans des étagères. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors si vous voulez récupérer les données, c'est là que ça va vous coûter un peu d'argent, parce que et ça va prendre du temps, parce qu'il faut qu'il y ait un bras qui se débrouille pour récupérer toutes les données. Mais par contre, la sauvegarde est très très peu chère, ça me coûte $1 par mois, même moins $1 par mois en fonction de ce que j'utilise comme données. Donc au moins avec ça, j'ai une tranquillité d'esprit incroyable. J'ai perdu beaucoup trop de données tout au cours de ma vie, donc depuis que j'ai ça, c'est top. En revanche, si vous encryptez vos données, faites attention de ne pas perdre la clé de chiffrement.
Eh oui, effectivement, malheureux que vous pouvez être d'avoir toutes vos données bien stockées quelque part, mais il vous manque quelques séries de caractères pour arriver à les lire, mais au moins vous avez des données chiffrées et vous êtes sûr que personne ne pourra vous les récupérer. Merci beaucoup Matt pour ce petit retour d'expérience, je suis sûr qu'il continuera en plus à nous en parler de tout ça, donc c'est hyper intéressant. On va enchaîner avec ton dossier, Julien, et la promesse est simple, tu vas faire de tous les auditeurs de Relive des millionnaires et on va tous s'enrichir grassement tel Picsou qui plonge dans son coffre-fort rempli de pièces d'or. Non, tout simplement, tu voulais nous parler un petit peu quand même constitution d'épargne et gestion de l'argent.
Oui, en particulier la gestion de budget. Alors je me suis intéressé et je m'intéresse toujours pas mal aux investissements et au monde des investissements personnels, la gestion de l'argent en général, mais vraiment un point de vue personnel. Je pourrais vous faire un petit dossier sur les conseillers en gestion de patrimoine, ces quatre, si ça vous intéresse, même si je connais pas encore trop bien le sujet, j'en ai toujours pas trouvé qui m'a rendu riche, mais au moins c'est un sujet quand même intéressant. Mais ça pour dire que j'ai découvert via mon papa, il me semble, que je salue, un podcast qui s'appelle Richissime et qui parle d'argent sans tabou avec plein d'idées, de conseils en général pour tous les budgets et pour tous les profils. Et du coup, la personne qui fait ce podcast, dont j'ai oublié le nom, désolé, à parler un peu de budget et expliquer un peu les quelles sont les 8 erreurs qui rendent votre budget inutile. Alors je vous invite à écouter le podcast en lui-même, mais moi, l'interprétation que j'en ai faite, c'est que jusque-là, ma gestion de mon argent, alors j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison, etc. Donc j'ai pas de voiture, j'ai un système financier qui est quand même relativement simple. J'ai pas beaucoup de charges. Certes. Mais bref, jusque-là, je mettais de l'argent de côté un peu toujours pour avoir toujours un peu de l'argent au cas où, c'est une sorte d'épargne de précaution, mais j'utilisais cet argent quand j'avais des dépenses exceptionnelles. Alors je prends un peu en fonction de la somme sur mon compte courant et puis je tape un peu sur l'épargne si ça dépasse quoi. Mais du coup, c'est une stratégie qui a une limite, c'est que une fois qu'on a tapé dans la caisse de précaution et que si c'est sur une dépense un peu lourde, typiquement moi il y a un an quand j'ai déménagé en Angleterre, ça m'a vidé un peu mon compte épargne parce que finalement entre tu dois faire le déménagement, tu dois payer la caution pour un nouvel appart, etc. À la fin, quand il te reste plus rien ou peu, t'es dans une sorte de vulnérabilité financière le temps de renflouer les caisses. Donc en fait, t'es toujours un peu derrière. Et ce que la personne dit dans ce podcast, c'est qu'il faut faire l'inverse, il faut faire des budgets. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre vraiment du recul et se dire, ok, quels sont les postes de dépenses que je pourrais avoir et de provisionner du budget. C'est-à-dire, si j'ai une voiture, il va falloir la réparer au bout d'un moment. C'est sûr qu'un jour, il y aura un problème. Combien est-ce que ça pourrait coûter à peu près? Hop, et quel est à peu près l'horizon auquel ça va arriver? Et comme ça, tu peux provisionner ce petit budget-là en fonction de la temporalité. Si tu vas avoir un voyage de prévu, je vais sûrement faire un voyage en Amérique du Sud d'ici la fin de l'année, j'ai une idée à peu près de combien ça va me coûter, je commence déjà à mettre de l'argent là-dedans. Comme ça, le jour où ça arrivera, il n'y aura pas de surprise dans mon budget. Je vais peut-être déménager, peut-être remplacer une machine à laver, je sais pas, je sais que je vais faire une retraite de yoga d'ici quelques mois. C'est pareil, commencer à mettre de l'argent de côté, les impôts. Moi je paye pas mes impôts à la source, bref, et du coup on provisionne comme ça ses budgets petit à petit en fonction de l'urgence, et du coup ça a pour moi deux avantages, c'est que l'argent qui nous reste à la fin, il est vraiment à nous, c'est-à-dire qu'on s'enfuit pas la tête dans le sable en se disant ah c'est bon j'ai plein d'argent, alors qu'en fait il y en a les trois quarts qui vont sûrement partir pour une raison ou une autre, et aussi une fois que la dépense arrive, on s'expose pas financièrement, on a déjà l'argent et du coup on a un cash flow qui est beaucoup plus stable et prévisible. Et ça n'empêche pas d'avoir de l'épargne de précaution pour les vraies surprises qui sont pas comprises dans aucun budget, mais au moins voilà, ça permet de limiter les risques. La mauvaise nouvelle de tout ça, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas du tout assez d'argent de côté par rapport aux dépenses qui pourraient survenir. Donc c'est mieux que de faire l'autruche, mais je vous garantis c'est pas un exercice qui est très agréable, c'est pour ça qu'il y a sûrement plein de gens qui évitent de le faire, mais au moins ça me crée une sorte de tranquillité d'esprit. Et du coup, je voulais parler de N26. Alors, ils sponsorisent pas ce podcast et je gagne pas d'argent, mais quand j'étais en Angleterre, il n'y avait pas N26. Et maintenant que je suis au Portugal, il y a N26, donc je suis content. Je l'utilise et c'est vachement bien. Tu peux créer plein d'espaces. En gros, tu peux créer, je sais pas combien, peut-être même que c'est limité, je sais plus, d'espaces, comme des espèces de petits comptes séparés. Et tu peux leur donner un objectif et un terme de chiffre et un nom précis. Et tu peux les provisionner automatiquement. Tu peux dire, tu peux faire un système de règles où tu dis si j'ai une rentrée d'argent de temps qui va correspondre un peu ou pour à ton salaire par exemple, et automatiquement tu provisionnes tel pourcentage dans tel espace, tel montant dans tel espace, etc. Et comme ça, quand tu reçois ton salaire ou peu importe tes revenus, et pouf, ça dispatche tout, et ce que tu as dans chaque budget, c'est parti. C'est là, par exemple, moi j'ai un espace spécial avec un IBAN spécial pour mon loyer. Comme ça, je reçois, boum, ça le met là, et puis ensuite il y a un virement programmé qui va payer mon loyer automatiquement. J'ai différents investissements, c'est pareil, j'ai les systèmes automatisés comme ça. Bref, tout s'automatise, et ensuite à la fin, je sais combien il me reste pour mon budget quotidien, les courses, les transports, etc. Et ce que j'ai découvert du coup il y a pas très longtemps en essayant de gratter un peu cette idée de budget, c'est que N26 permet aussi d'avoir plusieurs cartes de débit. Ça peut paraître absurde, plusieurs cartes de débit pour un seul compte, mais en fait comme tu peux créer plein d'espaces, tu peux assigner et réassigner à la volée quelle carte va taper dans quel budget. Donc maintenant j'ai une carte quotidien qui est mon budget de fonctionnement de base, et j'ai une carte fun pour les concerts, les sorties resto, les bars, etc. Donc comme ça, tous les mois, ça me provisionne un budget défini pour les trucs fun, et j'utilise une carte spéciale pour ce budget fun, comme ça à la fin, quand il n'y en a plus, bon ben voilà, maintenant on mange des pâtes et puis on arrête les bêtises. Et c'est pareil, si je pars en vacances, tu peux faire un budget vacances, et tu bouges ta carte pour qu'elle tape sur ce budget vacances, et au moins, t'es sûr de pas dépasser, puis si tu dépasses, ben voilà, tu provisionnes, mais au moins tu te mens pas sur ce qui s'est passé. Tu te dis pas, oh ben voilà, il y a je sais pas combien de zéros, et puis bon, ben on y va, et puis on regarde pas trop, au moins. Le but, c'est pas de se restreindre, de se culpabiliser, mais c'est d'avoir une vision claire et honnête de sa situation, et prendre des décisions informées. Donc voilà, budget précis, et je vous invite très chaudement à écouter Richissime, et en particulier cet épisode qui est la capsule 31, qui est sorti il y a quelques semaines. C'est assez intéressant comme vision.
Ouais, j'ai tendance, moi, à avoir une vision des choses autour du budget, de la finance, etc., en trois angles. C'est déjà connaître. En fait, ça paraît tout con, mais de savoir combien coûtent les choses, de savoir ce qu'on a, c'est pareil, ça va vous paraître débile, mais je pense que parfois, on pense pas toujours à ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Bref, d'avoir une vision très exhaustive de son patrimoine, c'est déjà une première étape hyper importante. Et puis, j'ai complètement oublié les deux autres. Donc je vous donnerai pas ma vision en trois étapes puisque je ne l'avais pas noté, je l'ai pas sous les yeux et je l'ai zappé. Mais je pense qu'effectivement cette oui si ça y est ça me revient de ne pas faire l'autruche. Donc ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de d'affronter le sujet parce que c'est quelque chose qu'on a probablement pas bien en tête, mais c'est un truc qui peut être hyper anxiogène selon les situations des uns et des autres, et de pas faire l'autruche, bah c'est hyper important. Et donc ça je pense qu'il faut s'infliger une discipline là-dessus et d'anticiper. Et là tu l'illustres extrêmement bien, c'est la troisième étape qui me paraît assez vitale, qui est celle de pas attendre que les choses te tombent dessus pour le faire, quitte à tout mensualiser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'en fais partie moi, qui se sentent obligées de gérer par mensualité, enfin voilà, mes impôts, bon maintenant c'est prélevé à la source ici en France, mais il y a d'autres aspects qui nécessitent d'être payés, outre les impôts sur le revenu, et typiquement moi je mensualise tout parce que sinon je sais que j'ai beaucoup de difficultés à le gérer. Matt, tu as des retours, des préconisations en matière de gestion budgétaire vite fait par rapport au retour de Julien?
Je pense que le meilleur truc vient de mon père, c'est de se créer des obligations. Alors, ce que dit Julien, dans le fond, c'est de se créer des retraits automatiques. Ça fait partie de ce que j'entends par obligation, de s'obliger à faire des retraits. Si petit soit-il, mais de manière régulière, c'est, je pense, le secret.
Quand tu dis des retraits, pour être sûr qu'on utilise les termes, enfin en tout cas les mêmes idées, c'est mettre de côté, c'est ça?
Oui, c'est ça. Des retraits d'argent. Mettre de côté, oui, désolé. C'est exactement ça.
Non, c'est... Ne sois pas désolé, mais j'ai toujours besoin parfois de recouper les termes que tu utilises au Québec et qu'on utilise en français, notamment.
Et je pense que c'est la meilleure des méthodes à faire de vivre, pas au jour le jour, mais de vivre avec ce qui nous reste vraiment. C'est l'autre bon truc de Julien. C'est des fois, ça fait de la peine, hein, par contre, parce que quand tu vois le salaire, puis tu vois qu'après, qu'est-ce qui reste, tu fais « merde ». Mais en même temps, on a des hôpitaux, en même temps, on a des routes, en même temps, on a des bibliothèques, on a des services de santé. Alors, ça se paye tout ça. Et dans certains pays, ben, ils n'ont pas la même chance que nous et ils doivent payer à chaque fois qu'ils utilisent. Alors, on en a moins par mois, mais quand il arrive un pet, ben, au moins, on est moins mal pris que dans certains pays.
Ouais, c'est souvent une vision qu'on oublie et qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que toute dépense, il y a quelque chose en face, ouais. Et parfois, il ne faut pas voir les choses que comme une dépense, mais aussi voir ce qui en contrepartie, ça aide aussi à avoir de la visibilité. Super, merci beaucoup Julien. Je ne sais pas, j'ai l'impression que le dossier que tu nous as apporté, Julien, va donner d'autres idées autour de la gestion du budget, de la finance, qui est parfois aussi un sujet tabou selon certains, donc... Si on a l'opportunité, on vous en reparlera bien évidemment. En attendant, on va passer des sujets un peu plus technophiles. On a des applications de Matt, les applications intéressantes du mois, ou de la quinzaine plutôt. Matt, qu'est-ce que tu as sorti de ton panier d'applications?
Bon, alors c'est très appleisien, c'est très très de l'écosystème Apple, alors désolé par avance. Premier, c'est une application, en fait, c'est un plugin que vous installez sur Safari et qui vous transforme tous les sites web en Time Machine. Ouais, vous connaissez le Web Archive, on peut aller sur un site et normalement, mm-hmm. il stocke toutes les versions d'un site web, en tout cas la plupart des sites web. Et bien là, c'est le petit plugin qui va bien et qui transforme tous les sites web en Time Machine et qui permet, c'est pas C'est pas 100% parfait. Il y a des petites erreurs dans ce plugin-là, mais il est vraiment assez, assez cool. Alors, vous allez, exemple, sur Le Monde. Vous cliquez sur le plugin et là, automatiquement, il va vous superposer tous les calques de mois, années de ces archives-là pour un site web, pour un site web donné. Alors, ben, ça évite d'aller sur le Wayback Machine de archive.org, puis ça donne un aspect plus ludique à ces sauvegardes-là.
Trop bien.
Le deuxième, c'est un autre plugin qui, lui, fonctionne très bien sur iOS, iPhone, iPad et sur votre Mac. Ça s'appelle Dead Name Eraser. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça permet de renommer à la volée des textes qui seraient sur une page web. Alors moi, typiquement, je fais souvent des présentations dans le cadre de mon travail. Je partage mon écran et des fois, il y a des informations que je n'ai pas envie qui soient affichées, comme mon adresse email, comme mon adresse physique, comme toutes sortes de trucs. Mais pourtant, je veux pouvoir partager. Alors, Deadname Eraser me permet de, à la volée, sur chacune des pages web qui sont chargées, de renommer tous les textes. Alors, typiquement, mon adresse mail, quand je fais une présentation sur un service bancaire, mon adresse mail est cachée, mes montants sont cachés. Alors, je peux faire des présentations sur des services bancaires, je peux faire des présentations et pas avoir à me soucier. Oh merde, j'ai laissé afficher ça à mon écran. Oh merde, quelqu'un a pu le capturer ou ainsi de suite. Alors, Deadname Eraser est vraiment chouette pour ça. Et il peut aussi vous permettre de faire des petites blagues. Oui, vous pouvez très bien renommer certains éléments d'un site web et faire croire que c'est telle information est véridique ou pas. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser dans cette façon de faire-là, ou vous pouvez aussi faire des fake news. C'est à la mode et c'est très courant. Mais bref, Deadname Eraser est vraiment très, très pratique pour les gens qui font des présentations à partir des pages Safari, que ce soit sur iPad, iPhone, des captures d'écran, ou sur votre Mac.
Ou changer le montant de ton compte en banque pour montrer que les conseils prodigués d'Henry Life t'ont transformé en multimilliardaire, évidemment, forcément.
Avant Julien, après Julien, je vais faire ça quand même.
Oui, c'est ça. Regardez, ça marche. The Magic Highlighter.
Oui, alors, ça c'est un petit plugin qui va bien et qui fait... Il ne révolutionne pas non plus la façon de faire. C'est qu'à partir de DuckDuckGo, à partir de Bing ou de Google, la minute que vous utilisez ce plugin-là et que vous faites une recherche dans un de ces trois moteurs de recherche-là, les pages subséquentes que vous allez consulter, automatiquement, les mots recherchés vont être highlightés. Alors ça peut être super intéressant si vous voulez retrouver l'information plus rapidement. Des éléments techniques, des forums pour des développeurs où on essaye de trouver l'information, ou des trucs comme ça, ou même tout simplement dans Wikipédia quand vous faites des recherches ou n'importe quel autre site, la minute que vous faites une recherche sur Google, DuckDuckGo ou Bing, automatiquement, il va highlighter de la couleur que vous voulez le mot que vous avez recherché. Alors, c'est comme une petite mémoire, puis visuellement, vous allez directement à l'information. Et ça revient un petit peu à ma méthode rouge, jaune, vert. Je veux vraiment me focaliser sur l'essentiel en ce moment.
Très bien, ça devrait être une fonction de base en fait, des moteurs de recherche et des navigateurs. Écoute, très bien, Magic Highlighter, donc vous avez tout ça dans les notes de l'épisode avec les liens qui vous permettent de les télécharger. J'en profite moi pour vous faire une petite mention. Vous savez à quel point je loue les services, non pas loue dans le sens louer, mais dans le sens faire des louanges, des services de Liner, qui est un service de surlignage que j'aimais beaucoup. Et il ne fonctionne plus sur Safari, sur iOS, depuis quelques mois maintenant, ça fait près de 2 mois, j'ai écrit aux développeurs, dans un premier temps ils m'ont dit on va s'en occuper, je les ai relancés 2-3 fois, ça y est, je sais que le bug est en cours de résolution chez eux, donc gros souci de timing de leur côté pour corriger ce problème, ce qui est jamais très bon signe, mais en tout cas j'ai jamais trouvé d'autres services qui fassent aussi bien que Liner sur iOS notamment, donc si vous avez des alternatives, n'hésitez pas.
InnoReader, mon ami.
Ouais, mais en plugin sur Safari iOS.
Ouais. Il fait exactement ça.
Je vais dire, ils n'ont pas répondu. Non, désolé, Safari, c'est le nouveau Internet Explorer.
Non, ils n'ont pas fait ça quand même. Non, pas à ce point-là. Non, ils savent à quel point c'est important. Mais très bien, mais je vais me pencher sur le plugin InnoReader sur Safari, sur iOS. Très bien. Et puis, dernière chose, alors je découvre un petit peu la poudre pour beaucoup. Mais je me suis rendu compte à quel point maintenant j'avais parfois des petites sollicitations de personnes qui voulaient échanger avec moi une demi-heure par téléphone. Alors parfois ça m'intéresse pas, donc soit je dis que ça m'intéresse pas, ou parfois j'ignore quand c'est trop insistant, mais aussi parfois ça m'intéresse. Et en fait, je me suis mis une nouvelle mécanique et une nouvelle organisation qui est que deux fois par semaine, je me réserve un créneau d'une demi-heure qui est potentiellement dispo pour échanger avec des gens par téléphone qui ont des choses à me présenter. Alors c'est souvent des créneaux que j'ai dispo. En l'occurrence, ça correspond à l'heure de breakdance de mes deux fils. Donc je sais que je me réserve dans ces deux heures-là où je m'occupe d'eux une petite demi-heure où je peux être dispo au téléphone. Et c'est des créneaux donc, que je laisse à disposition et que j'ai mis à disposition via un plugin de service Google qui s'appelle Coalendar. Donc en gros, c'est très simple. Hein, c'est un service que vous branchez sur votre calendrier Google et ça va faire un petit peu comme les Calendly que vous connaissez peut-être et que vous avez déjà découvert. Ça permet, quand vous envoyez ce lien à quelqu'un, de réserver un créneau dans votre agenda parmi ceux qui sont dispo. Donc le réflexe est très simple, hein. On me contacte par mail, on m'envoie un petit message pour me dire j'ai besoin d'échanger avec toi sur tel ou tel sujet. Très bien, ça m'intéresse, je t'envoie un lien et ça book tout seul le petit rendez-vous qui va bien parmi les créneaux qui sont dispo. Et vous l'avez compris, quand les créneaux sont pris, soit parce que exceptionnellement il n'y a pas ce créneau de dispo parce que j'ai autre chose de prévu ou parce que quelqu'un a déjà ce créneau, ça ne le propose pas et donc ça me permet de m'organiser vachement bien là-dessus. Donc je vous dis vraiment, je sais qu'il y a plein de services qui offrent ça, mais j'ai trouvé ça hyper simple quand on utilise déjà un service de calendrier chez Google et je m'étais dit que ça pourrait en intéresser une partie d'entre vous. Je vois que vous avez rajouté, je pense que c'est toi Julien, une alternative, quelque chose qui fait un peu, non c'est Matt, qui a noté ça dans le conducteur.
En fait, toutes les entreprises qui utilisent la suite Microsoft 365, vous avez ça de payer dans vos forfaits.
Ouais.
Ça s'appelle Booking et c'est fichtrement bien fait. Je peux vous dire que ça supporte un max de charge de fou. Alors, vous pouvez faire ça pour vos équipes et vos trucs comme ça. Et puis aussi, si vous êtes dans l'écosystème Microsoft, il y a Find Time qui permet de faire un sondage. Alors, je vois encore beaucoup trop de collaborateurs chez moi qui, pourtant, ont payé une blinde, les licences de Microsoft 365.
Des doodles.
Et qui font des doodles et qui perdent le carnet de contact de l'entreprise dans ces affaires-là, ces services. Tout le monde essaye de trouver le truc qui existe déjà en entreprise. Alors, FindTime permet de synchroniser pour les rendez-vous et Booking fait exactement ce que tu viens de dire, mais dans l'écosystème Microsoft 365. Initialement, c'est une start-up que Microsoft a rachetée. C'était une start-up qui s'occupait des petites entreprises comme les coiffeuses ou des choses comme ça, qui permettaient d'exposer les calendriers des PME. Et là, maintenant, c'est directement inclus dans les licences de Microsoft 365. Alors, utilisez-le, vous le payez.
Surtout pour votre environnement pro, évidemment, moi, effectivement, Coalendar, K-O-A-L-E-N-D-A-R, c'est plus pour un environnement, j'allais dire perso, si vous avez un calendrier Google en tout cas. Bon, vous avez plein d'outils à installer, on va terminer cet épisode avec la sempiternelle rubrique inspiration. Je vais essayer peut-être de l'inaugurer à ma manière. Deux choses, d'une part je suis tombé sur un article que je trouvais en fait assez cool, même s'il apprend pas des tonnes de choses, mais la façon dont c'était écrit chez The Atlantic me parlait beaucoup et ça faisait écho, Matt, à ce que tu as déjà partagé, c'est le partage des comptes, notamment de comptes Netflix au sein d'une famille. Et c'était hyper intéressant parce qu'il présente ce partage de comptes comme étant, il le présente être un soft product. Et c'est quelque part, alors tout à la fois un service digitalisé, un service numérique, mais quelque part aussi pas un service premier. C'est pas le service pour lequel tu souscris, tu t'abonnes pas à Netflix, principalement, en tout cas dans un premier temps, pour le partage de comptes. Mais quelque part, c'était un argument qui était très fort et surtout dans le cadre de Netflix c'était un argument fort, eux-mêmes en jouaient et avaient communiqué à plusieurs reprises en disant que en gros l'amour c'était aussi partager son mot de passe de son compte Netflix, donc ça montre à quel point c'était inscrit dans l'ADN et moi j'avais pas mesuré à quel point ça avait pu créer une friction auprès des gens et pourtant dans mon entourage beaucoup de personnes ont dit c'est honteux ce qui se passe chez Netflix, le fait qu'ils mettent fin au partage, alors qu'honnêtement moi sur le papier je suis plutôt dans le camp de ceux qui trouvent anormal le fait qu'on ait été amené à partager le compte dans des environnements familiaux, mais c'est évidemment un point de vue assez rigoriste de ma part et sans doute très excessif, mais ça m'a fait réfléchir sur les éléments secondaires et les espèces de petites habitudes auxquelles on installe les gens, soit quand on propose un service, soit quand on interagit avec les autres. Je me suis juste dit, il y a peut-être des petites habitudes dans notre attitude, dans les petites blagues qu'on peut faire, dans les sous-entendus, dans les réflexes qu'on peut avoir avec les gens, et il faut faire gaffe à ce que ce soit pas quelque chose auquel on habitue les gens comme étant quelque chose d'incontournable et de principal. Voilà, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais en tout cas cet article m'a fait un petit peu réfléchir. Je vous invite à aller le consulter, à le lire et à me dire si vous avez aussi les mêmes sentiments. Et puis l'autre élément d'inspiration que je voulais vous partager, c'est tout à la fois un compte Instagram, mais vous l'avez compris un petit peu en écho avec le précédent épisode de ReLife, aussi de la BD. Donc je vous invite à aller consulter un compte Instagram qui s'appelle Lorin l'oiseau, Lorin avec un souligné derrière l'oiseau. C'est un auteur de bande dessinée qui est diffusé sous la forme de carrousel sur Instagram qui sont à pisser de rire. C'est de l'humour un peu à l'anglaise, un humour un petit peu absurde auquel habituellement je suis pas très sensible, mais qui marche terriblement bien avec moi. Il a sorti une bande dessinée en bon vieux papier qu'on pouvait précommander sous la forme d'un financement participatif. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et voilà, ça m'a fait vraiment bidonner à chaque fois que j'ai lu les bandes dessinées sur Instagram. Et évidemment, je me suis tapé des barres de rire assez dingues à la lecture de la bande dessinée papier. Donc allez jeter un coup d'œil de votre côté, peut-être que ça pourrait vous plaire. Et en plus, recommandation dans la recommandation, il y a Lorin l'oiseau sur Instagram qui a recommandé un podcast que j'ai découvert il y a peu. Ça s'appelle Les pages du milieu, et j'ai longtemps cherché un podcast comme celui-ci, qui est tout simplement un podcast en français. C'est animé par des Belges, donc on entend un tout petit peu leur particularité de prononciation que je trouve particulièrement savoureuse, et ils parlent de l'environnement du Seigneur des Anneaux, des Terres du Milieu, de Bilbo le Hobbit, bref, de tout ce folklore et toute cette mythologie qui est souvent beaucoup traitée en anglais mais très peu en français. C'est particulièrement savoureux, donc voilà une recommandation dans la recommandation que je voulais partager si jamais vous intéressez de près ou de loin à l'univers de Tolkien. Julien, tu proposes tout simplement qu'on s'offre un jour de plus, dis-nous tout. Tu parles du changement d'heure qui nous pose autant de problèmes dans la coordination de ReLife ou pas, non ?
Non, je voulais vous partager un petit exercice que je fais depuis quelques années, que j'ai trouvé dans un livre de Fabien Olicard, il me semble, qui dit « Votre temps est infini », que je vous conseille, évidemment. Très, très intéressant et plein de bon sens, mais plein de petites astuces que j'ai trouvé très intéressantes, qui m'ont pas mal aidé à étendre mon temps et à le rendre presque infini. Bon. Peut-être pas, mais il y a une de ces idées dans ce livre qui s'appelle le 32e jour, où en fait il dit une fois par mois, le dernier jour du mois, offrez-vous une demi-journée pour vous, et pour pas une demi-journée pour rien faire ou qu'on pourrait prendre un peu comme le week-end, c'est juste pour prendre du temps vraiment pour soi. Un truc où c'est prévu, et c'est un truc que j'ai commencé à faire depuis quelques années maintenant. Alors bah, ça coûte plus ou moins 6 jours de vacances par an. Alors après il y a toujours un 32e jour qui va tomber un week-end, il y a toujours un moment où on sera en vacances, bref, c'est pas forcément une règle absolue, mais de temps en temps c'est quelque chose que j'aime bien me faire, et je vous recommande, c'est assez cool. Ouais, ça permet de, je trouve, comme c'est un jour en semaine, et que normalement on devrait travailler. Moi, en tout cas, plus je travaille à la maison, j'ai pas de mal à juste aller dans mon bureau et faire comme si je travaillais, mais juste prendre ce temps-là pour focaliser sur quelque chose d'autre, focaliser sur des podcasts, quelle est ma stratégie à plus long terme, prendre un peu de recul sur ça, ou à l'époque où j'ai créé mon livre, vraiment passer une après-midi entière sur le livre, focaliser là-dessus, ou juste aller faire un tour, aller partir faire une randonnée une après-midi tout seul, une petite marche sceptique. Bref, ça, c'est toujours un bon moment, et à chaque fois que je vois ce jour arriver, je suis toujours très content, parce que je sais que je vais pouvoir prendre une demi-journée rien que pour moi. Et voilà, du coup Fabien Olicard appelle ça le 32e jour. Je vous invite à essayer si vous avez quelques jours de vacances que vous pouvez dépenser comme ça.
Trop bien, c'est effectivement une bonne inspiration. Je pense que je vais le formaliser avec ce terme-là. J'ai les bouquins de Fabien Olicard que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Il faut absolument que j'aille lire ça. Maintenant que j'ai beaucoup digéré ces vidéos et que je l'ai vu en vrai, en spectacle, il faut que je me plonge là-dedans. Matt, tu voulais conclure également toi de ton côté avec cette rubrique inspiration.
Ouais, ben deux trucs. Le premier, c'est un compte Instagram qui me fait beaucoup rire et réfléchir en même temps.
Décidément.
Ça s'appelle YesBot, B-U-T. Et c'est toujours une image qui est soit inspirante, soit véridique, mais qui a toujours l'envers du décor un peu. Comme exemple, je vais vous l'imager. Vous êtes dans le train, vous travaillez sur votre MacBook et démarrez des bruits dans votre casque à cancellation de bruit. Pour avoir des bruits de forêt, de nature et ainsi de suite. Et après ça, ben, quand vous êtes dans la nature, vous démarrez un podcast, vous écoutez de la musique, ce qui fait qu'en bout de ligne, vous n'écoutez jamais la nature et pourtant, vous avez toujours un casque sur la tête. Génial. Et ce qui est vraiment très, très drôle. YesBot est vraiment très, très drôle. Des fois, il fait mal. Il y a des réalités qui font vraiment mal dedans. je vous conseille d'aller le voir, vous abonner. Et puis, ben, c'est une image, au quelques jours, vous en avez une très, très drôle qui va vous paraître. Des fois, ça ne vous touchera pas. Des fois, elle va être ultra pertinente. Bref, je vous conseille ce compte Instagram. Et l'autre truc que je vous conseille, peut-être avec vos enfants, Hugo Décrypte est une chaîne YouTube, un compte Instagram, un podcast sur Spotify, sur Apple, des nouvelles d'actualité qui s'adressent spécifiquement aux jeunes. Et je ne m'en cache pas, je l'écoute, Hugo Décrypte, je l'aime bien. Ça résume bien des fois l'actualité. Et mes enfants aussi l'écoutent souvent. Et depuis quelques semaines maintenant, à tous les samedis, il y a Hugo Décrypte, les bonnes nouvelles d'Hugo Décrypte, où il nous partage des bonnes nouvelles. Et ça fait du bien, hein, parce que si vous écoutez juste l'actualité normale, vous n'avez jamais de bonnes nouvelles. Et lui, en tous les cas, je dis jamais, ça dépend les journaux que vous écoutez, mais en tous les cas, ça fait quand même du bien et je trouve ça bien intéressant. Qu'un influenceur sur YouTube décide de relayer ce type de nouvelles-là à une clientèle qui n'est pas bercée tout le temps dans la zénitude et la plénitude et le bonheur. J'ai eu une conférence dernièrement sur justement le bonheur au travail et j'ai été complètement estomaqué de voir que les nouvelles générations selon les statistiques, en tous les cas au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes sujets de discussion qu'on pouvait l'avoir à leur âge. Alors, je trouve ça bien qu'un influenceur plutôt jeune remette un peu de joie et de bonne humeur avec des faits sur YouTube.
Merci Matt, merci Hugo Décrypte, et puis on ira regarder des vidéos. Je crois que tu avais déjà mentionné d'ailleurs Hugo Décrypte il y a de ça longtemps dans ReLive, donc tu y restes fidèle, j'adore, excellent. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir préparé vos dossiers respectifs et puis d'être présents ce dimanche soir pour cet épisode de ReLive. On a toujours un immense plaisir à se retrouver et enregistrer. Alors on a une petite difficulté, comme on vous l'a dit, c'est qu'on est dans 3 pays différents et on essaie de score avec des horaires qui changent, horaires hiver, été. Bon, le plus dur sera passé dans quelques semaines, mais je trouve qu'on a plutôt bien anticipé cette fois-ci. On peut être fiers de nous, messieurs. En attendant, on peut recommander à nos auditeurs d'écouter tous les autres épisodes de ReLive qui sont dispo si jamais ils découvrent ReLive. Je pense que ça, c'est la base, mais aussi d'aller suivre relifepodcast.com, toutes les autres sources d'interaction qu'ils peuvent avoir avec nous, notamment le lien vers la page Patreon qui permet de nous soutenir financièrement et de nous accompagner professionnellement dans le temps qu'on consacre pour le podcast. On vous invite évidemment aussi à aller déposer un commentaire sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou quelques petites étoiles sur Spotify. Et puis si jamais l'envie vous en prend, vous pouvez également nous retrouver à titre individuel. Matt, si on veut partager avec toi l'amour des applications utiles, l'amour du NAS ou pourquoi pas l'amour de la production organisée avec les codes couleurs, surtout si on n'est pas daltonien, voilà, merci, je cherchais le terme. Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Profduweb.com, vous avez tous les liens qui vont bien. Et par rapport à Patreon, pour les abonnés de Patreon, j'ai mis le lien dernièrement sur ma librairie d'outils d'intelligence artificielle que j'alimente encore avec cette semaine plus de 500 prompts. pour ChatGPT que vous pouvez utiliser si vous êtes abonné au Patreon. Alors, vous pouvez aller voir profduweb.com, c'est sûr. Mais si vous vous abonnez au Patreon de ReLife, ben, vous avez des choses aussi en bonus.
Très beau cadeau, merci Matt. Julien, si jamais on souhaite revenir vers toi parce qu'on a fait faillite ou au contraire qu'on a mis plein d'argent de côté grâce à toi et peut-être qu'on a des sujets à aborder pour des futurs dossiers autour de l'argent, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur julien.deret.fr, vous trouverez tous mes liens. N'hésitez pas à me passer un mail ou à me contacter sur Twitter. Je répondrai avec grand plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur mon podcast Agiliste aussi, où on parle de méthodes agiles en français et avec un dernier épisode en anglais, d'ailleurs, si vous voulez aller pratiquer votre anglais.
L'exception qui confirme la règle. Effectivement, on en fait un dernier tour de piste pour vous rappeler les autres podcasts et les autres environnements où on peut nous retrouver aussi sur d'autres sujets. Matt, en l'occurrence, on peut te retrouver dans Apple différemment. Vous avez d'ailleurs fait un épisode dernièrement avec Audrey Coulot, avec qui tu partages ce podcast sur la domotique, HomeKit en l'occurrence. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il y a aussi Apple et compagnie, une chaîne YouTube que tu animes d'une main de maître. Et puis de mon côté, vous me retrouvez aussi chaque semaine dans Tech Café pour la Tutech hebdomadaire, et vous l'avez entendu en intro, dans Contrôle Parental, où on vous parle de sujets qui touchent la parentalité. Merci beaucoup pour votre fidélité, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de ReLife. Ciao à toutes et à tous.
Ciao, ciao.